Game Radio donne la parole aux jeux vidéo et aux gamers. Cette émission est un podcast de la communauté Game Radio.
Bonjour à tous, amis de Game Radio, c'est Sorrento pour vous présenter Xenoblade Chronicles, qui est le RPG de cet été, enfin le RPG japonais, puisque là, et il faut savoir que je pense que beaucoup sont d'accord avec moi pour dire que le RPG est un genre qui a beaucoup malheureusement décliné dans cette génération. Il faut savoir que il n'y a pas eu de gros hits comme à l'époque, c'est le beat avec les Contrailleurs, etc. Et donc, c'est, je veux dire que les joueurs de RPG sont un peu en mode déprime. Surtout que, il y a un an, donc on a montré Xenoblade, qui s'appelait Xenoblade tout court, et qu'on ne pensait pas que ce jeu allait sortir en Europe. Surtout que, finalement, et même The Last Story, qui était la série, entre guillemets, qui devait être le Final Fantasy de Nintendo, ne sortait pas en Europe, entre guillemets. On s'est dit, si Xenoblade, qui est un RPG de niche, ne sort pas, si The Last Story n'est même pas prévu, Xenoblade n'a aucune chance. Donc, finalement, avec une petite surprise, Nintendo Europe l'annonce, alors que Nintendo américaine ne le localise pas. C'est un peu incompréhensible, puisque c'est en Amérique que les rares jeux gamers se vendent, en général. Mais bon, au moins, pour une fois, on a une exclusivité qui fait plaisir, sachant que ce n'est que le commencement, puisqu'on aura d'autres RPG, Pandora Tower et The Last Story. Donc, en attendant, on aura donc ce Xenoblade. Alors, qu'est-ce que ça donne avec Xenoblade? Alors, Xenoblade, donc, déjà, il faut savoir que c'est un jeu, oui, donc c'est déjà moins cher qu'un... un jeu HD, hein, et mon dieu, 46€ une édition simple, et aussi une édition collector qui ne sert plus à grand chose, puisque il n'est plus possible d'avoir des artbooks ou des trucs comme ça, donc à part si vous voulez absolument une manette classique pro rouge, il n'y a aucun intérêt à prendre une édition limitée, puisque la jouabilité Wiimote Nunchuk est tout à fait pertinente. Surtout que si en plus vous avez gardé vos manettes classiques pro de Monster Hunter, elles marchent impeccables aussi, il n'y a pas de souci. Voilà, pour ça, Xenoblade Chronicles est parfaitement jouable dans les deux. Donc déjà, je tiens à vous rassurer, vous n'allez pas gigoter, vous n'allez pas... il n'y a absolument rien de tout ça, vous allez jouer tranquille, pépère sur votre canapé, et c'est pas plus mal. Voilà, donc... de toute façon, c'est un RPG, donc effectivement, l'utilisation de la Wiimote n'aurait pas été très pertinente pour ça. Alors Xenoblade, ça se présente comme un univers déjà très original. Il faut savoir que déjà, l'univers, c'est entre guillemets, il y a longtemps, il n'y avait qu'un océan, et il y a eu deux titans, Mekonis et Dionys, qui sont apparus, et qui se sont bastonnés jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc ils se sont fossilisés, et la vie s'est développée sur les deux titans. Donc Dionys, la vie organique, avec les humains, et Mekonis avec les robots, les mécons. Donc, comme les deux titans se sont tués, à l'endroit du choc de l'épée, les mécons peuvent entrer sur Bionis. Et donc les mécons attaquent les habitants de Bionis, les Homs, qui sont les humains seulement, et qui mettent en danger. Et les Homs, malheureusement, n'ont pas beaucoup d'équipements qui peuvent percer les blindages des mécons, sauf les légendaires épées Monado, qui seraient une épée laissée par Bionis en personne. Donc l'épée Monado qui est maniée par un héros, Dunban. Alors Dunban, c'est assez intéressant, il faut savoir que c'est un personnage doublé par le doubleur de Vegeta en japonais. Donc pour ça, qu'il y a une chose qui est intéressante, faite assez vite paramètre, changement de langue japonais, parce que pour les fanboys de DBZ, il y a même un autre acteur qui est dans le jeu, je vous dirai pas qui. Voilà, donc déjà... Il faut savoir qu'en plus le jeu il présente cet univers donc de titans, donc le jeu le met vraiment en avant très souvent. On voit souvent des plans, je vois par exemple quand on est sur la plaine de Gore, qui est un endroit des jeux, on voit Mekonis au loin qui est presque effrayant, parce qu'on vraiment on le voit, et avec ses yeux rouges, on dit, oh là, il est vivant, c'est beau, j'en ai mal barré. Et il faut savoir que le monde est donc vertical et non pas horizontal, comme dans tous les RPG ou sphériques. Donc, ce qui fait que c'est assez amusant. Donc, on monte, on descend, on balade carrément sur les membres du dieu, même parfois à l'intérieur même. C'est pour ça que, et il faut savoir qu'on s'en rend même pas compte, on a traversé la jambe en entier. Alors, le jeu, donc, au niveau exploration, c'est immense, c'est des terres vraiment, vous voyez une tour loin, vous pouvez y aller, une palette loin, vous pouvez y aller, vous pouvez même sauter, vous plonger dans l'eau, même sauter et mourir, comme un con. Voilà. Et pour ça, vous êtes 100% libre, il n'y a pas de mur invisible, débile, qui vous empêche de faire quoi que ce soit. Le jeu, pour ça, il est, particulièrement, bien foutu. Alors évidemment, il y a quelques petits problèmes techniques comme les ralentissements, mais c'est très rare, c'est quand il y a vraiment beaucoup d'ennemis. Et puis, bon, quelques problèmes techniques pour ceux qui ont des télés HD très qui portent mal à LD, comme c'est sur Wii, malheureusement, ça ne donne pas forcément toujours un très bon résultat. Par contre, quand on fait les gros plans sur les personnages, par exemple, par contre, au niveau des décors, c'est une très très bonne réussite. Hein. Ils sont magnifiques, hein. Je pense que tout le monde va être éclaté par terre quand ils verront les plaines de gore de jour, ou même quand il y aura l'orage. Vous allez voir, c'est très impressionnant. Et on a même d'autres secteurs comme les jungles et tout ça qui sont magnifiques. Hein. Pour ça, c'est les cascades et tout. On s'amuse à prendre des photos parce que c'est vrai que c'est. Et en plus, c'est assez impressionnant, c'est que les temps de chargement, ils ne font que entre grandes zones, et ils sont relativement courts. Ce qui est encore une galère, c'est qu'en plus, c'est que t'as un DVD bleu de couche, et quand on se souvient des temps de chargement présents dans un Super Smash Bros. Brawl, bah finalement, il n'y en a pas tant que ça. Voilà, donc c'est Xenoblade. Donc après, exploration, c'est surtout la trilogie principale, c'est le scénario. Alors, le scénario de Xenoblade, je ne vais pas vous parler trop, parce qu'il ne faut pas spoiler, évidemment. Alors, Xenoblade Chronicle, donc, je vais l'expliquer, ça se passe sur les titans, etc. Donc, finalement, alors, qu'est-ce qui se passe au début du jeu? Donc, au début du jeu, on contrôle le fameux Dunban que je vous ai parlé tout à l'heure, le porteur de la Monado, qui se retrouve dans une bataille contre les Mécons, dans la vallée de l'épée. Donc, la zone où, justement, les épées se sont rencontrées, les deux titans. Alors, il faut savoir que Dunban, il se, entre guillemets, à pouvoir manier la Monado. Donc, il se retrouve à combattre, et malheureusement, il y a des effets secondaires. Dunban ne peut plus contrôler la Monado, et on voit bien qu'au départ, il est plus en très bon état. D'ailleurs, le jeu se passe un an après la bataille, entre les Mécons. On découvre enfin le vrai héros de Xenoblade qui est Shulk, un jeune homme qui est fan de technologie, qui est un peu, il étudie la Monado depuis son jeune âge. Il espère un jour en percer le secret, puis finalement, les Mécons reviennent un an après la bataille, dans la colonie de Dunban. Là où vit Shulk, et ils vont foutre un vrai bordel, et Shulk va décider d'aller se venger. Voilà, entre guillemets, et évidemment, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais évidemment, cette tête de vengeance va devenir petit à petit dérisoire par rapport à ce qui va vraiment se passer dans le jeu. Mettant en péril, par exemple, comme dans tous les RPG japonais, le monde carrément. De toute façon, ce n'est pas vraiment un spoiler, puisque tous les RPG japonais ont un peu cliché. Mais là, au moins, ça monte en puissance d'une façon assez bien distillée, assez crédible. Il faut savoir qu'il y a une petite surprise, des petites surprises de temps en temps. Bah, ça s'appelle Xenoblade, donc des petits clins d'œil à Xenogears et Xenosaga. Et je pense que vous les noterez, j'espère que vous les noterez. Et la petite surprise finale vous fera plaisir, parce qu'on découvre une chose qui est très intéressante. Et en plus, le jeu laisse une ouverture sur une suite possible. Donc, on espère que ça se fera, que Monolith pourra travailler sur Wii U, parce que ça pourrait être intéressant, puisque le seul défaut finalement de Xenoblade est d'avoir des graphismes SD, mais encore, ils sont relativement beaux, donc on imagine que sur Wii U, ça ne sera plus un problème. Voilà, donc après, le gameplay. Alors le gameplay, il faut savoir qu'on pourrait avoir peur que le monde est tellement ouvert qu'on serait perdu. Mais ce n'est pas tout à fait vrai, puisqu'on a toujours un fil rouge, on est toujours guidé par une belle flèche, même si parfois c'est pas toujours très clair. Et les zones ne sont pas si... on n'est pas obligé d'explorer toute la zone pour avancer dans le scénario principal. On peut très bien rusher en ligne droite, et revenir plus tard pour explorer. Et il faut savoir que la taille des environnements, est juste comme il faut savoir que vous n'allez pas être saoulé d'explorer un environnement. Moi, la bière de Final Fantasy XII, où j'ai été saoulé d'explorer un certain désert, là, au moins, on n'est jamais saoulé, puisque l'environnement, il va changer assez vite, finalement. Et en plus, il faut savoir que c'est bien découpé. Il faut savoir qu'il y a des cutscenes assez souvent, donc on ne s'ennuie pas, sauf à un certain moment du jeu. Mais c'est justifié par le fait que voilà. Après, donc il y a des choses intéressantes. Après, le système de combat. Alors, le système de combat, il n'y a pas d'attaque. C'est-à-dire que ça se fait automatiquement. Je vais vous dire, oui, heureusement, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à gérer par rapport au système d'art. Alors, il faut savoir que ça se passe en temps réel. Il n'y a pas de coupure. Il n'y a pas de tour par tour. Donc, vous choisissez les attaques que vous voulez lancer. Donc, certaines attaques magiques ou physiques qui sont plus ou moins efficaces en fonction de la situation. Apportant des malus ou des bonus à votre équipe ou à vos ennemis. Donc, par exemple, il est plus intelligent de déséquilibrer, puis de faire chuter, puis d'assommer quelqu'un. C'est un combo que vous utiliserez souvent. Après, vous pouvez faire des coups d'attaque à distance, vous agissez du subtil en magie, baisser leur puissance, etc. D'ailleurs, les combats de boss mettent bien souvent en avant les capacités de vos personnages. Ainsi, il sera intéressant, par exemple, de faire shooter un gros monstre pour pouvoir le taper plus facilement. On prend par exemple un gros robot mécon. Il faut savoir que comme les armes normales de vos alliés ne font pas grand-chose, les faire shooter leur donnera la possibilité de taper normalement sur les mécons, sans utiliser le sort d'enchantement de la monnaie d'eau, qui permet de s'en passer, mais l'avantage c'est que là on tape beaucoup plus fort. Donc le système permet aussi de faire l'enchaînement avec la barre de formation, qui est en haut à gauche, qui est le truc bleu. Voilà. Et on permet de ressusciter vos alliés, de les encourager, de les prévenir. Alors, il faut savoir que la monnaie d'eau offre le pouvoir de vision, nous permet d'anticiper les attaques des monstres qui peuvent tuer, gravement blesser ou donner des malus. Donc, vous permet d'anticiper les combats. Et pour une seule fois, cette possibilité est très, très bien intégrée au scénario, puisque le jeu vous montrera des visions de ce qui va se passer. Alors, c'est intéressant, on pourrait dire, oui, ça va spoiler, mais finalement, elles sont tellement bien utilisées qu'on ne comprend pas très bien. C'est un peu comme la pub d'ailleurs, la pub elle spoil énormément, sauf que comme on n'a pas fait le jeu, on comprend pas très bien ce qui se passe. Donc là, les visions elles sont vraiment très utiles, parfois un petit peu trop. Je pense à certains combats de boss vers la fin où vous avez tout le temps des visions toutes les 30 secondes, mais à part c'est vraiment à toute fin, les visions elles sont jamais gênantes. Alors après, c'est vrai que c'est ce qui est intéressant, il faut savoir que le jeu il est très fluide. Il faut savoir que si vous faites relativement les quêtes secondaires simplement, en suivant le scénario, avec l'exploration, il y a rarement besoin de level up. Il faut savoir quand même une chose, c'est que un combat contre un boss, si vous vous dépassez, par contre, il faut savoir qu'il ne faut pas avoir plus de 5 niveaux d'écart. Comme ça, vous n'avez aucune chance avec le monstre, donc. Mais en général, il n'y a que 2-3 niveaux d'écart avec le boss, donc vous y arrivez. Si vous n'y arrivez pas, c'est un problème de stratégie. Vous n'avez pas forcément la bonne personne. Je pense maintenant que certains boss qui demandent d'avoir une magicienne, puisque la physique ne lui font rien. Donc voilà, il est intéressant de noter que c'est la stratégie, parfois, peut faire changer le destin. Puisque, en plus, il y a des compétences qui permettent, en plus, si l'adversaire est plus fort que vous, d'avoir une meilleure agilité, d'avoir une meilleure force, d'avoir une meilleure défense. Donc, finalement, affronter un adversaire plus fort que vous n'est pas si pénalisant. Alors, il faut savoir quelque chose qui est très intéressant dans des levels, c'est que l'équipement, il change. Oui, je pense que je ne connais pas beaucoup les RPG qui le font. Puisque, voilà. Là, vous équipez avec une armure, ça change. L'apparence des personnages en exploration, en combat et aussi en cinématique. Alors c'est assez amusant dans les visions de voir l'équipement actuel que vous portez. Et puis finalement quand l'événement se produit, vous n'avez pas exactement la même armure. Preuve en est que le jeu vraiment tient compte vraiment de votre équipement qui a changé. Donc ce ne sont vraiment pas du tout des cinématiques calculées. Et certaines séquences sont vraiment très impressionnantes, très épiques. En plus, le jeu, il a une OST, donc une bande son, vraiment exceptionnelle. Et c'est un peu normal, puisque il y a trois compositeurs principaux, dont Yoko Shimomura, qui est la compositrice de Kingdom Hearts, et qui est vraiment donne vraiment un ensemble vraiment exceptionnel et un nombre de musiques hallucinant, puisqu'il faut savoir qu'en plus, le jeu, il y a une gestion du jour-nuit et que la musique change. Il y a un nombre de jeux, de pas nombre de musiques de combat, de, oui, 6 musiques de combat, donc ça évite de s'en lasser. Sans lasser, du verbe là, sans lasser, voilà. Là, donc après, la musique, franchement, les voix japonaises sont vraiment exceptionnelles. Même les voix anglaises sont pas si mal, mais bon, je préfère les voix japonaises. Mais c'est vrai que c'est vraiment d'une qualité pour ça. Après, bon, il y a quelques défauts. On prend par exemple l'inventaire qui est un peu mal fichu. Oui, c'est parce qu'on est obligé d'acheter et de l'équiper après. Donc c'est un petit peu lourd. Parfois, on ne sait pas. L'inventaire, il n'est pas limité. On est obligé de revendre des objets. On ne sait pas quels objets sont importants. Même si Vision nous aide des fois. Donc pour ça, c'est un peu lourd. Et savoir qu'il y a des trucs qu'on ne voit pas forcément tout de suite. Par exemple, le fait d'avoir une collection d'objets, etc. Le jeu ne vous explique pas forcément, même s'il y a beaucoup de tutoriels qui sont très bien foutus, heureusement. Voilà. Après, donc, il faut savoir qu'il y a des choses qui peuvent vous aider, qui vous faites. Par exemple, les lignes permettent de savoir si les monstres sont trop forts ou pas. De toute façon, si vous voyez un monstre niveau 96 et que vous êtes niveau 15, il faut mieux éviter le combat. Alors, c'est ça qui est fort dans les levels, c'est que vous rencontrerez des monstres qui vous attaquent ou pas. Donc, sachant que les monstres uniques vous attaqueront forcément. Même quand ils sont plus faibles que vous, mais généralement, si vous êtes plus fort qu'eux, ils vous laisseront la paix. Ce qui est intéressant pour explorer, par exemple, les anciennes zones, vous verrez, vous serez plus tranquille. Après, à ce niveau-là, il faut savoir quand même que le nombre de quêtes est hallucinant. Parfois, je dirais même trop. Et que certaines quêtes sont quand même très intéressantes à faire. Certaines quêtes peuvent influencer même le, pas forcément le scénario, mais peuvent vraiment vous donner des clés supplémentaires par rapport au scénario, vous donnant des petits spoilers à l'avance. Voilà, et certaines sont plus ou moins intéressantes, effectivement. C'est pour ça que le jeu aurait peut-être gagné à avoir un mode en ligne, puisque c'est un jeu exclusivement offline. Les quêtes secondaires ne sont pas toujours très intéressantes, et au moins plusieurs, ça aurait permis peut-être de les faire beaucoup plus facilement. Mais bon, c'est du annexe, on n'est pas obligé de les faire. Voilà. Ensuite, il faut savoir que le jeu est vraiment d'une générosité sans faille, c'est-à-dire que il y a plein de choses à faire. Donc, les quêtes annexes, le fait de devoir gérer l'entente entre les membres de votre groupe, sachant que plus votre groupe s'entend bien, plus il sera efficace en combat. Et en plus, il doit devoir gérer l'entente avec les PNJ des villages entiers, même parfois. Il y a même une quête annexe qui est très importante à ce niveau-là. Je ne peux pas dire ce que c'est puisque c'est un spoiler. Voilà, après donc, en plus de devoir faire ça, vous devez en plus gérer le fait d'avoir une collection, comme je l'ai dit tout à l'heure, gérer les objets, savoir quel objet vous devez ramener pour votre quête, les quêtes elles-mêmes, car certaines nous demanderont d'aller voir tel personnage, donc vous devez opérer par rapport à ce programme. Alors évidemment, des fois c'est un peu chiant parce qu'on a du mal à les repérer. Vous direz, hey, ils ont tel d'autres, ben, je me violonne, cette fois-ci c'est 14h, mais où? Voilà, des fois c'est pas très clair. Voilà, et ensuite, après c'est vrai que il y a des points pour ça, un petit peu cliché des fois, un nouveau scénario quand même. Mais pour ça, c'est mieux comme il fait que certains autres RPG, ils sont beaucoup mieux utilisés, clichés. Et oui, donc en parlant de conclusion, il y a beaucoup de choses à faire. On prend par exemple de nouveau des trophées. Alors il y a énormément de choses à faire. On prend par exemple tuer ton sang d'ami, etc. Et pour ça, le jeu vous encourage franchement à faire tout sauf avancer le jeu, puisque l'exploration vous récompense aussi. Trouver paire en paire, telle zone, faire tel truc, trouver tel truc. Voilà, c'est immense. Vous avez tellement de choses à faire que finalement vous êtes, on dit presque perdu, mais finalement le jeu l'intègre petit à petit. On prend par exemple le système de germe qui ressemble foudrement au système de matériel de Final Fantasy 7, qui permet d'avoir des bonus en plus. Donc finalement on a vraiment une gestion de choses à faire qui est immense. Et, on vous prend pas pour un non, ce n'est pas un jeu casual. Et pourtant, on ne peut pas faire game over. Vous revenez toujours au point le plus près, le repère. Et en plus, vous pouvez sauvegarder pratiquement quand vous voulez, hein, sauf exception toutefois. Donc vous êtes vraiment libre. vraiment libre de faire ce que vous voulez. Vous pouvez zapper la cinématique ou pas. Vous pouvez voir vraiment une liberté sans faille. Hein. Comme je dis, le jeu est vraiment l'image de l'exploration. Vous êtes libre. Voilà. Hein. Voilà, ça fait déjà 20 minutes que j'en parle de Xenoblade. Hein. Voilà. Donc, franchement, c'est un jeu. Hein. Je pense que si vous avez une Wii, que votre mère a une Wii pour Wii Fit, prenez le jeu discrètement, piquez-lui, et essayez Xenoblade, vous ne serez pas déçu. Plutôt que la laisser prendre la poussière, je pense que c'est une très bonne idée. En attendant, en plus, peut-être le prochain Zelda et les prochains RPG, franchement, Xenoblade, c'est vraiment un hit incontournable. Par contre, une chose intéressante, vous ne serez pas déçu. Je pense que le scénario, je peux pas vous dire trop, mais c'est rare que je dise ça. Mais je pense que là, on tient vraiment un grand RPG. Et je pense que il n'est pas exagéré de dire qu'il fait partie des 10 meilleurs JRPG de tous les temps. Et pour ça, venant de moi qui adore Final Fantasy VI, dire que Xenoblade rivalise dans cette catégorie-là, c'est que c'est vraiment un grand, quoi. C'est pas à dire je suis un fanboy, non, Xenoblade c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. On le comprend pas forcément tout de suite, hein, parce que des fois l'intro est un peu lente, il y a des séquences un peu chiantes. Et après quand on finit le jeu, on se dit, ah oui, j'ai vraiment passé un bon moment. Voilà, et je pense que c'est ça le plus important, passer un bon moment. Voilà, et donc je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et je voulais vous faire un petit cadeau. Alors le petit cadeau de ma part, c'est je vous rappelais que dans le podcast je parlais du thème principal du jeu qui est tombé par terre, composé par Yoko Shimomura, composé de Kingdom Hearts, et donc je vais vous l'offrir tout simplement en podcast. Donc voilà, je vous quitte sur le même thème de Xenoblade. Voilà, à la prochaine.
Game Radio donne la parole aux jeux vidéo et aux gamers. Cette émission est un podcast de la communauté Game Radio.